Bonjour à toutes, je suis Sabrina et je vous accueille sur le podcast Maman Travail, un podcast où l'on parle boulot, maternité et surtout charge mentale, le tout, sans tabou. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de mères, de femmes qui nous raconteront leur maternité et la place qu'a pris leur travail dans ce tout nouvel équilibre. Et sans trop vous spoiler, ce n'est simple pour aucune d'entre nous. On sait comme la grossesse peut être semée d'embûches pour les mamans, pour le bébé, pour les parents, pour notre état psychologique parfois pas simple. Mais quand on est malade et enceinte, c'est encore une autre épreuve qui vient nous mettre au défi. C'est ce dont on a parlé dans l'épisode du jour avec Sabrina, un épisode où elle nous a partagé la maladie avec laquelle elle vit depuis sa naissance. Une maladie qui, vous verrez, ne l'empêche pas de vivre, bien au contraire. À sa naissance, on a dit à ses parents qu'elle n'aurait que 7 ans à vivre, parce qu'elle est atteinte de la mucoviscidose. Et à cette époque, l'espérance de vie était beaucoup plus réduite qu'aujourd'hui. Quand Sabrina a grandi avec cette maladie, avec un quotidien rythmé par les allers-retours à l'hôpital, elle n'a pas voulu se laisser aller. Bien au contraire, elle a voulu et elle veut encore croquer la vie, la savourer, ne rien se refuser. Et dans ce combat contre la maladie, elle avait cette envie de devenir maman, cette envie de goûter à la maternité, de découvrir les joies de la maternité. Personne ne pensait qu'elle réussirait à tomber enceinte naturellement, parce qu'elle prenait beaucoup de traitements pour tenter de vivre correctement avec cette maladie. Et pourtant, son fils a aujourd'hui plus de 20 ans. Alors comment elle a géré sa maladie, sa maternité, sa grève des poumons, et aussi son quotidien en tant que maman solo, ce qui n'a pas toujours été facile. Vous allez voir que Sabrina a eu plusieurs vies, et surtout, vous allez découvrir comme elle est courageuse et comme elle ne se laisse jamais abattre. Je vous laisse découvrir l'épisode du jour et j'espère qu'il vous plaira. N'oubliez pas que c'est votre moment pour faire une pause dans votre quotidien. Bonne écoute! Eh bien, coucou Sabrina!
Coucou!
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans ton quotidien?
Je m'appelle Sabrina, je vais avoir 43 ans au mois de mars. Je suis créatrice de contenu santé et je suis coach en développement personnel. J'accompagne principalement des personnes dans le milieu caritatif, des personnes qui ont un parcours de vie un peu atypique. Pourquoi cette voie? Parce que je suis moi-même atteinte de la mucoviscidose, je suis greffée des poumons, que j'ai passé toute ma vie dans les hôpitaux. Et du coup, c'est important pour moi d'avoir fait quelque chose de tout ça. Et à côté de ça, je fais le plus beau métier du monde, comme beaucoup de femmes. Je suis maman d'un grand garçon qui a 20 ans.
Avant qu'on parle de ta maternité, moi j'ai pas mal de questions. Avec quel terme tu es à l'aise? Parce que c'est aussi un vrai sujet. Qu'est-ce que tu préfères qu'on dise? Est-ce que tu préfères qu'on dise que tu es une personne porteuse de handicap ou atteinte d'une maladie?
La combattante et femme engagée que je suis te dirait que je suis une femme porteuse d'un handicap invisible, ce qui est vrai et c'est ce que je défends au quotidien. Je me bats pour faire comprendre le handicap invisible, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Après, j'ai un réel problème avec le mot handicap que je trouve pas très joli. Je préfère dire que je suis malade.
Quand tu es née avec cette maladie-là?
Exactement. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique, donc qui se diagnostique à la naissance.
Tu n'étais pas censée vivre jusqu'à aujourd'hui.
Effectivement. Donc il y a 43 ans, la mucoviscidose n'était pas aussi bien soignée que maintenant. Elle n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui, grâce notamment à l'histoire de Grégory Le Marchal. C'est vrai que quand je suis née, on a annoncé à ma maman que je ne vivrais que 7 ans. C'est d'ailleurs le titre de mon livre, qui peut paraître négatif, mais moi je trouve ça très positif, parce que finalement, les médecins mettaient pas cher sur ma peau, et finalement, j'ai 43 ans et je suis encore là.
Ouais, c'est clair. Et du coup, ta maman l'a su quand elle était enceinte de toi, ou c'est vraiment à la naissance qu'on sait ce type de maladie?
Pas du tout. Alors aujourd'hui, chaque femme qui met au monde un enfant a le moyen de savoir depuis 2002 si son enfant a la mucoviscidose de par le fait le test de Guthrie qui est effectué chez les bébés. La mucoviscidose, ça fait partie de toutes ces maladies qui sont décelées lors du test de Guthrie. Or, moi, quand je suis née en 1981, c'était pas à l'ordre du jour. Donc, en fait, ma maman, elle avait ce qu'on appelle un vrai instinct maternel. Et quand je suis née, en fait, j'avais des symptômes un petit peu bizarres. J'avais des diarrhées, j'étais pas très épaisse. Et je faisais des bronchites à répétition. Et en fait, un jour, elle m'a emmenée chez le médecin. à force d'aller chez le médecin, et elle a dit au médecin, écoutez, ça va être très clair. Plus précisément, elle m'a emmenée à l'hôpital. Elle a dit à l'hôpital, écoutez, ça va être très clair. C'est soit vous trouvez ce qu'a mon enfant, vous lui faites des examens et vous trouvez ce qu'elle a, soit vous me faites interner parce que je suis folle. Et donc, de là, je suis restée 15 jours hospitalisée, et au bout de 15 jours, on a annoncé à ma maman que j'étais donc atteinte de cette maladie.
Et du coup, tu disais tout à l'heure que c'était génétique. Ça veut dire que dans ta famille, il y a aussi des cas de mucoviscidose?
Pas du tout. En fait, faut savoir qu'une personne sur 20 est porteuse du gène de la mucoviscidose. Malheureusement, on ne peut pas le savoir, parce que sinon, on choisirait un petit peu son conjoint en fonction de la génétique. Mais c'est vrai que si on prend, par exemple, dans une salle de réunion 20 personnes au hasard, il y en a forcément une qui sera porteuse du gène de la mucoviscidose. Et si deux personnes, malheureusement, se croisent avec ce gène et décident de mettre un enfant au monde, bah, y a de grandes chances pour que l'enfant soit atteint de la mucoviscidose. Et donc, c'était le cas de mes parents.
Et donc, j'imagine qu'en plus, à cette époque-là, ça devait être compliqué parce que maladie très peu connue. Donc pour tes parents, ça devait pas être évident à gérer, savoir quoi faire.
C'est sûr que ma mère, c'est le ciel qui lui est tombé sur la tête. Hein. C'est vrai que quand on est une toute jeune maman qui voit un petit bébé tout rose sortir de son ventre et qui ne présente aucun signe apparent, quand on vous annonce que votre enfant va n'être que 7 ans, enfin, c'est vraiment la douche froide. Et effectivement, c'est une maladie qui demande des traitements lourds au quotidien. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau traitement qui est arrivé pour les jeunes générations et pour les patients qui ne sont pas greffés, ça c'est une bonne nouvelle. Mais moi, à l'époque, on ne soignait pas aussi bien la mucoviscidose, et c'est vrai que je suis un peu née dans une génération où, malheureusement, j'ai vu beaucoup de décès.
Du coup, toi, tu as eu une greffe, c'est ça, une greffe des poumons?
Exactement. En fait, en 2007, j'ai été greffée des deux poumons. En fait, à l'époque, donc, il n'y avait pas ces traitements qui existaient. Quand on arrivait en fin de traitement de la maladie, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de solution pour soigner la maladie, à savoir qu'elle ne se guérit pas. La seule solution pour que je puisse continuer à vivre à ce moment-là, c'est la greffe pulmonaire. Alors c'est vrai qu'au départ, j'étais pas chaude du tout parce que, comme je te l'ai dit précédemment, je fais partie d'une génération. Malheureusement, j'ai vu beaucoup de décès et j'ai perdu beaucoup de mes amis. Et pour moi, la greffe, c'était pas possible. Mais en fait, il y a quelque chose qui a changé toute la donne, c'est que j'avais mis mon fils au monde et que mon fils n'avait pas demandé à naître dans un monde où sa maman n'allait pas se battre contre sa maladie. Donc, bah, c'est vrai que moi, c'était vraiment chaud à cette époque-là, mon pronostic vital.
Mais du coup, en fait, t'as été enceinte avant d'avoir ta greffe.
Oui, c'est ça. Mon fils est né en 2003.
Et ça, dans ton processus de guérison, enfin, je sais que à l'époque, surtout à l'époque, il n'y avait pas de guérison réelle sur ce type de maladie. On devait vivre avec. Je ne sais pas si aujourd'hui ça a un peu évolué, mais du coup, quand tu as découvert ta maladie, est-ce qu'on t'a parlé du fait que bah ça allait être compliqué d'avoir des enfants? Est-ce que tout ça, on en a parlé à ta maman, ou est-ce que quand tu es devenue plus grande, on t'a parlé de ça?
Alors, si c'est passé, alors pas du tout, à ma maman, pas du tout. Maintenant, aujourd'hui, les choses ont un petit peu évolué. Après, ça dépend toujours de
qui t'as en face.
Voilà, qui t'as en face, sur qui on a affaire, de la manière dont va expliquer voilà, le médecin, de manière soit efficace, soit très maladroite. Vraiment, ça dépend de la personne que t'as en face de toi. Et moi, à l'époque, on ne parlait pas du tout de ça. Ce qui s'est passé, c'est que à l'adolescence, vers 16-17 ans, j'ai vécu ma première vraie histoire d'amour. Et en fait, moi, dans ma vie, si tu veux, j'ai enterré ma meilleure amie, j'étais en sixième. Et donc, j'avais 12 ans, donc plutôt que d'aller au collège, j'ai enterré ma meilleure amie. Et en fait, si tu veux, de cet événement, j'en ai fait une mission de vie. Je me suis dit, en fait, tout ce qu'elle n'aura pas la chance d'avoir vécu, moi, je vais le faire.
Ouais, tu le fais pour elle et pour toi.
Exactement. Et en fait, j'ai toujours eu cette soif de vivre et d'être pressée pour tout. C'est-à-dire de ne jamais avoir le temps. Donc en fait, à 16 ans, j'ai commencé à dire « je veux devenir maman, je veux avoir un enfant, etc. » Et là, en fait, les médecins m'ont vraiment prise au sérieux. Ils ont vraiment compris que c'était pas un caprice d'adolescent. Et ils m'ont pris dans un bureau. Ils m'ont dit « écoute, c'est pas non, mais c'est pas oui. Mais en tout cas, ce sera pas maintenant parce qu'il faut que tes poumons aient fini de se développer avec ton corps d'adolescente pour que ça puisse bien se passer. » Donc là, je me suis un petit peu calmée. Déjà, le fait qu'on m'ait pas dit non. Après, je savais que ça risquait d'être difficile parce qu'en fait, si tu veux, pour t'expliquer rapidement, la mucoviscidose, c'est un mucus visqueux qui vient obstruer les bronches et qui vient se greffer sur plusieurs organes. Et en fait, ce mucus, il peut obstruer l'appareil génital de la femme. Et donc, quand on essaye d'avoir un enfant, en fait, les spermatozoïdes ne peuvent ne pas atteindre l'appareil génital de la femme à cause de cette couche épaisse de mucus. Donc, il y a des femmes qui tombent enceintes.
Naturellement.
Et il y en a d'autres qui ont recours à la fécondation in vitro. Moi, contre toute attente, et ça a été la grande surprise de tout le monde, parce que j'avais vraiment une atteinte sévère. Donc, j'étais vraiment très atteinte par la maladie. Donc, tout le monde s'est dit, mais elle tombera jamais enceinte, c'est impossible. Et en fait, quand j'ai rencontré le père de mon fils, si tu veux, on n'était pas sur un projet bébé. Ça faisait un mois et demi qu'on était ensemble.
Ouais.
Et en fait, j'avais eu un truc dans mon cycle. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que j'avais un retard de règles. Et en fait, je suis tombée enceinte.
Incroyable.
Ouais.
Et tous les traitements, parce que t'as des traitements qui étaient lourds avant, enfin je sais pas si aujourd'hui t'as encore un traitement à vie, mais les traitements que tu prenais avant d'avoir ta greffe devaient être lourds, est-ce que ça c'était compatible avec une grossesse ?
Je vais commencer par avant et je vais t'expliquer un petit peu après. Donc effectivement, avant la greffe, j'avais beaucoup de médicaments, j'avais des heures de soins, des aérosols, de la kiné, et c'est vrai que j'avais beaucoup d'antibiotiques. Et certains antibiotiques, effectivement, peuvent être dangereux quand on décide d'avoir un bébé. Donc en fait, dès que je suis tombée enceinte, on m'a arrêté certains médicaments.
Tu devais être ultra surveillée dans ta grossesse.
Par miracle, bon alors déjà comme je ne fais jamais rien de normal et comme tout le monde, j'ai eu la bonne idée de tomber enceinte l'année de la canicule 2003.
Ah ouais, ok.
J'avais pas beaucoup de poids. Dans la mucocinose, on n'est pas très épais. Là, le fait d'entendre toute la journée, il faut manger pour deux et dehors, il faisait 45 degrés. Moi, j'avais juste envie de manger des tomates et des concombres. Si tu veux, c'était compliqué. Donc voilà, j'avais vraiment une grosse pression par rapport au poids. Mais bizarrement, ma grossesse s'est vraiment bien passée. Alors pour la petite anecdote, c'est vrai que dans la mucoviscidose, il y a beaucoup de traitements, il y a des jours avec, des jours sans. Quand je suis tombée enceinte, donc je suis tombée enceinte en mois de novembre, j'ai commencé à avoir des symptômes au mois de décembre. Et si tu savais, comme j'étais contente de vomir tous mes tripes, parce que je savais que je vomissais parce que j'avais des symptômes de femme enceinte et non pas à cause de la mucoviscidose en fait.
Ouais.
Tu vois, donc je vomissais partout et je disais, mais c'est pas grave, je suis enceinte. Donc voilà, donc oui, j'étais surveillée, mais ma grossesse s'est plutôt bien passée. Donc je te dirais que j'ai eu peut-être deux échos en plus qu'une femme normale.
Et du coup, pendant cette grossesse-là, est-ce que tu t'es posé la question, de par ta maladie, de comment t'allais gérer ton nouveau rôle de maman ? Parce que ça devait forcément te questionner.
Franchement, je saurais pas vraiment t'expliquer, mais j'ai une force en moi, parce qu'il faut savoir que quand t'es atteinte d'une maladie chronique, qui plus est mortelle, quand tu tombes enceinte, tu ne ramasses pas les félicitations et tu ne vois pas la joie dans le visage des gens. Tu perçois que de l'inquiétude.
Ouais, les gens ont peur. Ta maman, elle était encore là pour t'accompagner. Est-ce qu'elle l'a bien pris?
Je dirais que ma mère, c'est celle qui a le mieux géré. C'est-à-dire que c'était la plus inquiète, mais c'est celle qui a su gérer sa façon de le montrer. C'est-à-dire qu'elle essayait de partager ma joie sans me communiquer son stress et ses peurs. Et surtout, elle n'a pas eu de paroles maladroites comme j'ai pu entendre. Tu penses bien que j'ai ramassé des critiques et des paroles du style « t'es complètement inconsciente, tu vas mettre au monde un orphelin, tu vas avoir un enfant qui va pas avoir sa maman très longtemps ». Et en fait, c'est des paroles qui ne m'ont jamais vraiment atteinte parce que moi, j'ai toujours eu cette lucidité de se dire, mais en fait, qui détient une boule de cristal pour affirmer qu'il va m'arriver quelque chose et n'importe qui décide d'avoir un enfant ou qui décide de faire un projet quelconque peut se faire éclater par une bagnole d'une minute à l'autre, en fait.
Mais c'est clair.
Si tu veux, je sentais que j'avais la force de mener à bien cette grossesse. Et la seule inquiétude que j'ai éprouvée lors de cette grossesse, c'est jusqu'à mes 4 mois de grossesse, puisque il fallait qu'on vérifie les tests génétiques pour savoir le taux de probabilité que mon enfant naisse avec la mucoviscidose, parce que normalement on fait les tests avant, mais comme c'était une grossesse
imprévue,
exactement, voilà. Moi, jusqu'au 4e mois, j'étais un petit peu tendue, et à mes 4 mois de grossesse, la généticienne m'a appelée pour me dire, elle m'a appelée le jour de mon anniversaire, elle m'a dit, Sabrina, détendez-vous, il y a une probabilité sur 1000 que votre fils soit atteint de la mucoviscidose, donc vous pouvez respirer et vous calmer.
Ça, c'était une bonne nouvelle pour toi, c'était ta grosse crainte.
Je te jure, c'était à 4 mois de grossesse. Et à 4 mois de grossesse, j'ai su que mon fils déjà allait bien, qu'il avait pratiquement aucun risque. Et de ce moment-là, j'ai arrêté de gerber aussi. c'était vraiment la grossesse qui commençait et j'étais hyper épanouie, j'étais contente, j'adorais être enceinte, j'étais hyper fière de, bah voilà, de mes kilos, de montrer mon ventre, j'étais vraiment hyper contente.
Et pendant cette période de grossesse, et ça c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais tu travaillais, tu faisais quoi avant d'être créatrice de contenu? Parce que la création de contenu, c'est arrivé bien plus tard.
Ouais.
C'était quoi ton métier avant?
J'étais esthéticienne.
Et du coup, pendant cette période de grossesse, t'arrivais à travailler ou avec la maladie, la grossesse, c'était un peu compliqué?
Non, je me suis arrêtée à un mois et demi de grossesse parce que, comme je t'ai expliqué, je vomissais beaucoup, j'étais fatiguée et en gros, si tu veux, dans la mucositeuse, comme je t'ai expliqué, on n'est pas très épais, on n'est pas très gros et déjà que je perdais du poids, donc là, les médecins m'ont dit, maintenant, il faut que tu fasses, si vraiment tu veux réaliser ce rêve et mener à bien cette grossesse, tu dois te reposer et faire attention à très bien manger. Je me suis arrêtée direct.
Ouais, tu t'es exécutée.
Ouais, complètement. Là, pour mon fils, enfin pour mon bébé, j'étais prête à tout.
Et là, à partir de là, à partir du moment où t'étais enceinte, tu t'es dit que t'allais faire ton maximum pour être avec lui jusqu'au bout. Parce que du coup, la greffe, j'imagine que tu l'as acceptée pour ça aussi.
Le truc, c'est que j'ai accouché et 8 mois après, je crois, j'étais pas très en forme. J'ai eu du mal à m'en mettre de cette grossesse parce que, comme je t'ai expliqué, je suis tombée enceinte l'année de la canicule. Donc, en fait, j'ai pris très peu de poids. Et surtout, juste après la grossesse, j'ai perdu beaucoup trop vite et beaucoup trop. C'est-à-dire que...
Oui, avec la fatigue, le manque de sommeil, t'as allaité ton fils ou...
Je pouvais pas parce qu'il fallait vraiment que je reprenne les médicaments qui étaient dangereux, qui avaient été arrêtés pour la grossesse, qui étaient des antibiotiques qui agissaient très bien pour mes poumons, mais qui étaient dangereux pour mon fils. Par contre, quand j'ai accouché, c'était vraiment le, si tu veux, le deal. Et juste après ma grossesse, bon, j'ai eu beaucoup d'aide, hein, parce que je suis sortie de l'hôpital, j'étais en surinfection pulmonaire, donc je suis sortie de l'hôpital avec 40 degrés dehors et 40 degrés dans mon corps, avec de la fièvre, etc. J'ai été mise sous perfusion tout de suite à mon accouchement, donc à la maison j'étais sous perf et en même temps j'avais mon bébé.
Donc très compliqué à gérer, j'imagine que le papa devait être bien présent pour t'aider aussi parce que sinon ça devait être hyper chaud.
Ouais, j'avais vraiment tout le monde à mes côtés, j'avais le papa, j'avais ma maman, ma belle-maman, mes amis se sont montrés très très présentes aussi. Les nuits où je pouvais pas me lever, j'avais quelqu'un qui se levait pour moi, soit le père de mon fils, soit quand il était en déplacement, bah c'était ma maman qui se levait la nuit, mais c'est moi qui donnais le biberon. Je bougeais pas du lit, mais ma mère se levait pour me donner mon bébé et le biberon. Voilà, mais je me suis vraiment vraiment occupée de mon fils. Hein. Ça
te tenait à cœur.
Ah ouais, complètement. Ouais.
Mais ça devait être hyper dur mentalement de gérer ta maladie parce que du coup, elle devait se relancer puissance 10. Peut-être qu'elle était un peu en sommeil quand t'étais enceinte et qu'elle s'est relancée. Ça a dû être compliqué à gérer, non?
Ouais, c'était compliqué à gérer. Puis là, c'est vrai qu'il y a une petite angoisse de se dire,
bah oui,
j'ai bien descendu, est-ce que je vais remonter en fait? Forcément, tu...
Ouais, et puis la grossesse, ça épargne aucune femme. Donc quand t'es encore plus, quand t'as une maladie comme celle que tu avais et que tu as encore quand même.
Et encore, dans mon malheur, j'avais de la chance parce que je pouvais vivre cette hospitalisation à domicile.
Ouais.
Mais je savais que si je me dégradais un peu plus, c'était l'hôpital, c'était non discutable et c'était sans mon bébé parce que on fait pas rentrer une femme en pneumologie avec un nourrisson, quoi. Parce que mon fils est né prématuré, mais à 8 mois. Ça a pas été simple, mais encore une fois, comme je te dis, j'avais une équipe autour de moi qui était vraiment incroyable et je t'ai cité beaucoup de monde de mon entourage, mais il y avait aussi mes infirmières à domicile qui étaient déjà mamans. Et qui ont vraiment été d'un soutien incroyable et qui s'occupaient de moi au maximum pour que je puisse aller mieux vite pour m'occuper de mon bébé.
Et alors, est-ce que tu as réussi à remonter la pente rapidement physiquement au niveau de ta santé? Comment ça s'est amélioré?
Pour être très honnête avec toi, j'ai jamais vraiment remonté. C'est-à-dire que je me suis stabilisée, donc j'avais plus de fièvre, etc.
Au bout de combien de temps tu t'es stabilisée?
Au bout de 3 mois, on va dire.
Ça veut dire que pendant ces 3 mois, t'avais des périodes où t'avais la fièvre, où ton corps...
Ouais. Ah oui, vraiment. Et puis après, j'ai réussi à me stabiliser, mais je pataugeais un peu dans la semoule et surtout, j'étais dans le déni, en fait. J'étais dans le déni parce que je voulais faire comme toutes les mamans. C'est-à-dire que déjà que dans ma tête, je m'étais arrêtée à un mois et demi de grossesse. Là, je m'étais dit, en fait, tu dois faire comme toutes les mamans. Tu dois aller retravailler. J'avais une crèche, j'avais ma place en crèche, j'avais tout le monde. Donc en fait, dans ma tête, fait, dans mon schéma à moi, c'était vraiment, c'était comme toutes les mamans. J'étais un petit peu vraiment, enfin voilà, vraiment, je me voilais la face.
Et tu t'es mis une pression aussi de, peut-être parce que ton entourage aussi te, bah, tu vois, toutes les réflexions dont tu parlais tout à l'heure, t'avais envie de montrer que t'étais autant capable qu'une autre maman.
Ouais, je pense, ouais. Puis j'avais envie de rassurer aussi le papa de mon fils. Parce que, comme je t'ai dit, je suis tombée enceinte, ça faisait un mois et demi qu'on était ensemble, donc j'avais pas envie de lui faire trop peur avec la maladie, et je voulais aussi lui montrer que, bah, en fait, il était avec une femme comme toutes les autres, donc c'est vrai que je me suis mis une pression. Donc je suis retournée travailler, mais alors à mi-temps, et si tu veux, bon voilà, je te dis, j'ai réussi à stabiliser, mais en sous-marin, la mucoviscidose gagnait du terrain petit à petit.
Bah surtout que tu ne te ménageais pas du coup parce que t'allais travailler, ton enfant tu le mettais à la crèche, j'imagine que t'allais le chercher ou que le papa allait le chercher, mais ça reste quand même la course quand tu rentres à la maison.
Ouais.
T'as le tunnel du soir quand tu rentres, enfin du coup tu faisais comme toutes les autres mamans qui travaillent, qui gèrent la charge mentale, mais t'as cette grosse maladie qui est en plus.
C'est ça, tu dis en sous-marin, la maladie gagnait du terrain. 2 ans après, malheureusement, mon couple n'a pas tenu, donc je me suis séparée du papa. Et alors là, bah, comme tu dis, là je me suis retrouvée maman solo avec mon fils.
C'est chaud.
Plus la maladie qui continue à gagner du terrain, j'ai fait comme j'ai pu.
Donc là, ton fils avait 2 ans et quelques.
Ouais, 2 ans et quelques.
Donc il est tout petit et c'est l'âge où la sollicitation est extrême.
Ah ouais, ouais.
Où c'est hyper mouvementé.
C'est hyper mouvementé, et alors pour le coup, dans mon malheur, et je touche du bois et Dieu merci, tu vois, j'ai pas allaité, mais alors mon fils, il a, mais vraiment je touche du bois parce que j'ai horreur de dire ça, mais je suis obligée de le glisser quand même, mon fils il a une santé, mais de dingue depuis tout petit, il est jamais malade.
Mais franchement, tant mieux.
Donc, tant mieux, tu vois. Donc, en fait, parce que le fait d'avoir un enfant qui était à la crèche, qui me ramenait des microbes, qui aurait pu me ramener des microbes très souvent et qui aurait pu être dangereux pour moi, bah, j'avais un enfant qui était vraiment une barrière. Il m'a fait quoi? Il m'a fait la varicelle et puis il m'a fait quoi? Peut-être 4 épisodes de fièvre jusqu'à ses 5 ans, tu vois. Donc, c'est rien du tout. Il était jamais malade.
Oui, parce que toi, plus tu as des virus, plus ça t'affaiblit et du coup, plus la maladie gagne du terrain.
Ouais, c'est ça. Donc, et puis encore une fois, ben, c'est vrai que quand t'as un enfant qui est malade, je me mets à la place des autres mamans, je pense que tu dors moins bien la nuit, que c'est fatigant, etc. Donc c'est vrai que dans mon malheur, j'ai eu cette chance, mais je restais néanmoins une maman seule qui emmenait son fils le matin, qui allait le récupérer le soir parce que le papa, il est reparti dans sa ville où il a grandi, mais qui était à 60 km d'ici, donc c'était pas évident. Donc je me suis épuisée petit à petit.
Et en plus de tout ça, t'as quand même découvert toute cette phase du postpartum, parce qu'on en a pas parlé, mais du coup c'était ta première grossesse, donc oui. T'as aussi découvert ton premier postpartum.
Exactement.
Au milieu de tout ça.
Alors mon postpartum s'est plutôt bien passé. Je pense qu'il y a mon mental qui a fait aussi parce que j'étais tellement concentrée sur ma maladie que...
Ouais, tout le reste, t'en faisais abstraction et c'était pas grave à côté de ça.
C'est ça. Je me suis bien remise, j'ai une césarienne et tout, mais vraiment je me suis bien remise. Donc voilà, mais bon, j'étais dans une spirale où...
Ouais, t'es dans la spirale du quotidien, t'es happée par le quotidien de maman solo, hein, de toute façon.
Ça. Exactement,
tu dois
ça.
Tout gérer de front et puis en plus tu ne dois pas dire que t'es fatiguée, que donc j'imagine que t'as dû quand même te mettre un peu de côté pendant toute cette période où ton fils était petit.
Je pense que en tout cas j'étais très mal organisée parce que je faisais de mon mieux, je vivais vraiment au jour le jour. Après j'avais pas d'angoisse. C'était juste de me dire, il faut que je m'en sorte.
Ouais, c'était d'autant plus important qu'avant, parce que là, t'étais vraiment... c'était toi et ton fils.
Ouais, mon fils, voilà. Et puis, je me mettais aussi une pression pour qu'il ne ressente pas trop la maladie au quotidien.
Bah oui.
Pour lui montrer aussi à lui qu'il avait une maman comme toutes les autres.
Ça devait être compliqué, même quand t'allais le chercher et tout, tu vois, ça devait être un peu difficile, non?
Alors, c'était un petit peu difficile pour des petites choses toutes bêtes du quotidien. Mais par exemple, quand j'allais le chercher en crèche avant qu'il marche, le fait de le porter alors que j'avais pas beaucoup de force et pas beaucoup de souffle, tous ces petits gestes anodins du quotidien pouvaient vraiment me fatiguer, en fait.
Et t'as continué à avoir un peu d'aide autour de toi ?
Oui. Oui, par exemple, des fois, le week-end, j'étais fatiguée, j'avais mes copines qui le prenaient, qui l'emmenaient faire des activités. Ou...
Est-ce que quand ton fils était petit, tu lui as parlé de ta maladie?
Je lui ai jamais rien caché, je lui ai toujours expliqué. D'ailleurs, je lui parlais enceinte. Je lui parlais enceinte parce que j'avais des violentes quintes de toux. Et je me rappelle que la première fois que je l'ai senti bouger, c'était après une violente quinte de toux. Et donc, je me suis mise à parler à mon ventre. J'ai expliqué à mon fils que sa maman avait une maladie qui l'empêchait de bien respirer et qui la faisait tousser. Mais que même si les quintes de toux étaient très violentes, il fallait surtout pas qu'il s'inquiète, que c'était normal et que ça me faisait du bien de me dégager les bronches, etc. Et quand il était petit, je lui ai toujours tout expliqué parce qu'il faut savoir que mon fils a grandi au milieu des aiguilles. Il y a des seringues, hein, il y en avait
Ah
partout
oui.
à la maison, et qu'il a jamais rien touché. Et quand il posait des questions, voilà, je lui cachais rien, je lui expliquais, je lui montrais.
Et du coup, à quel moment cette greffe des poumons, elle est arrivée? T'as toujours été sur une liste d'attente depuis ta naissance?
Non, non, pas du tout. En fait, on ne peut pas mettre quelqu'un sur une liste d'attente dès la naissance parce que déjà, il n'y a pas assez de donneurs d'organes. Et en plus de ça, la greffe reste un geste incertain. C'est-à-dire que la greffe ne guérit pas la maladie, elle prolonge la vie et elle remplace un problème par un autre. En fait, on t'inscrit sur une liste d'attente de greffe quand on estime que ton pronostic vital est engagé
Plus, plus.
plus plus. Voilà.
Donc, c'est ce qui s'est passé pour toi.
C'est ce qui s'est passé pour moi. En fait, comme je t'ai dit, quand je me suis séparée, l'année d'après, je continue à me dégrader, dégrader. Puis un jour, le médecin m'a prise dans le bureau et m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de la greffe? Donc je lui dis, je suis contre. Je suis contre parce que j'ai pas un joli schéma et de beaux souvenirs. Et puis elle m'a dit, oui, mais là, on arrive à un stade où c'est vraiment compliqué. Donc prenez le temps de réfléchir. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne t'inscrit pas sur une liste de greffe comme ça. D'abord, il faut faire un bilan pré-greffe où vraiment on te fait des examens de la tête aux pieds pour trouver le donneur le plus compatible pour toi.
Oui, parce que ton corps peut rejeter la greffe.
Absolument. Voilà. Donc au départ, il était juste question du bilan. Et en fait, donc l'été 2006, j'étais en train de finaliser le bilan. Donc mon fils avait 3 ans. Et j'ai commencé à me dégrader sévèrement. En fait, j'ai passé un été à 19 jours à 42 fièvres. Et là, les médecins sont rentrés dans ma chambre et ils m'ont dit, alors là, ça va vraiment être compliqué parce qu'en fait, on n'a plus d'antibiotiques qui agissent pour vous. Et le problème, c'est que vous n'avez pas fini votre bilan préalable. Pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ok, là c'est chaud. Et puis, je sais pas, je me suis battue, je me suis accrochée, j'ai réussi à me sortir de cette fièvre. Et dès que je suis sortie de cet épisode, donc ça a été très dur aussi, hein, parce que là par contre, j'avais pas eu le droit de voir mon fils.
Ouais, t'es resté à l'hôpital et ton fils a été gardé, donc ça devait être dur mentalement.
Ça, c'était hyper dur. Et en même temps, ça te faisait une espèce de.
Ouais, c'était ta lumière au bout du tunnel, quoi.
C'est ma mission de vie, donc voilà. Donc après, je suis sortie de l'hôpital. J'ai finalisé ce bilan pré-greffe et donc j'ai été inscrite le 1er janvier 2007. Alors pourquoi le 1er janvier? Parce que même si je suis quelqu'un de positif, je m'étais dit, c'est quand même une opération à risque et si jamais il m'arrive quelque chose, en tout cas, je veux passer ce dernier Noël avec mon fils avant d'être inscrite sur la liste d'attente. Et donc, c'était le deal avec les médecins qu'ils ont respecté. Par contre, le 1er janvier 2007, j'ai été inscrite donc sur la liste d'attente de greffe et j'ai attendu 11 mois. Ouais,
Ah ouais.
j'ai été greffée dans la nuit du 10 au 11 no... non, du 9 au 10 novembre 2007.
Et alors justement, quand t'es rentrée pour cette greffe, comment ça se passe? On t'appelle, on te dit que c'est le moment et qu'il va falloir que tu rentres au bloc tout de suite, ou est-ce qu'il y a un temps
Alors, pour la petite histoire, moi j'ai, en fait, quelques mois avant, j'avais rencontré Alexia Laroche-Joubert dans une salle d'attente chez le gynéco.
Ouais.
Et en fait, c'était, je crois, 5 jours avant le décès de Grégory Lemarchal. Et en fait, je lui avais dit comment va Grégory, parce que moi je ne l'ai pas connu. Et elle me dit, ça va et tout, machin. Et en fait, 4 jours après, il meurt. Et donc, elle essaye de me retrouver pour s'excuser. Et donc, elle me retrouve et elle me dit, écoute, je suis vraiment désolée de t'avoir donné ces nouvelles, je ne savais pas, etc. Elle me dit, mais restons en contact et si tu veux, à la rentrée, je t'invite dans le public de la Star Academy, etc. Et moi, j'allais vraiment pas bien. Enfin, moi, ça faisait des mois que je faisais plus rien parce que j'étais sous oxygène, j'avais mon respirateur artificiel, j'avais quasiment plus de vie sociale parce que j'étais très fatiguée. Donc je lui dis, ok, pourquoi pas. Et donc en 2007, en septembre, la Starac redémarre et je lui envoie un petit message. Je lui dis, bonjour Alexia, c'est Sabrina, machin et tout. Donc elle me dit, est-ce que tu veux venir sur un Prime? Je dis oui, pourquoi pas. Et donc elle me dit, bah écoute, le soir du 9 novembre, si tu veux, il y a Rihanna, il y a Nanan et tout. Je dis ok, pas de problème. Elle me dit, quelles sont tes conditions? Ah bah je dis, en fait, il y a deux conditions qui sont, enfin trois plutôt, qui sont indiscutables. La première, c'est que je fasse pas la queue dans le froid avec tout le public, parce que c'est pas possible. Mmh. La deuxième, c'est que je puisse venir avec mon oxygène, parce que je peux plus respirer sans. Et la troisième, c'est que je puisse garder mon téléphone portable, parce que normalement on n'a pas le droit sur l'émission de télé, sauf que moi je ne pouvais plus me séparer de mon téléphone au cas où j'avais un appel pour la greffe, ce qui paraissait quand même improbable que le téléphone ouais. sonne ce soir-là.
C'est clair.
Voilà, et donc là, je passe le prime, je passe une super soirée parce que ça fait des mois que je suis dans ma chambre et qu'il se passe plus rien. Et que les médecins m'avaient dit « Non mais t'inquiète, tu seras greffée dans les 6 mois, etc. » Alors que encore une fois, personne ne peut savoir. Et donc, je passe une super soirée et le prime sonne la fin à 23h. Et là, j'ai mon téléphone qui sonne avec ma mère hurle dans mon téléphone. Puisque j'entendais pas, en fait, il y avait tout le public derrière. Et ma mère qui hurle « Greffe, greffe, greffe !» En fait, le chirurgien avait appelé ma mère pour dire « On a un greffon pour Sabrina, donc il faut qu'elle vienne dans les 2 heures. »
Ouais, il faut y aller directement, c'est ça.
Voilà. Et ma mère est tellement folle que... elle avait appelé le... non mais c'est un délire, elle a appelé le commissariat d'Aubervilliers pour dire écoutez, si j'arrive pas à joindre ma fille, c'est de la non-assistance à personne en danger, il faut que vous ayez sur le prime pour dire qu'il y a un greffon pour ma fille, faut pas qu'elle le loupe, etc. Donc là j'ai un pompier qui arrive sur le prime.
Ah ouais,
ah ouais, non mais quand je te dis ma mère est folle. Et donc là ben, j'ai tout le monde qui me prend en charge. Alors grosse émotion, parce que forcément c'est le plateau où Grégory Lemarchal a chanté quelques mois avant. Et là là j'ai tout le monde qui s'occupe de moi, et en fait je passe de la Plaine Saint-Denis à l'hôpital européen Georges Pompidou. J'arrive avec plein de paillettes parce que j'avais voulu camoufler ma mine de cadavre, hein, faut le dire. Donc j'arrive pleine de paillettes et je dis au mec je viens de t'agresser, en fait. Le mec il m'a regardé, il s'est dit ok, elle aussi elle est folle, tout va très bien. Donc après on m'accompagne dans une chambre pour me préparer, et là en fait je n'ai pas mon fils avec moi.
C'est exactement ce que j'allais te dire. Est-ce que tu as pu voir ton fils avant?
J'ai appelé mon ex, en fait, le père de mon fils. Je lui dis, écoute, je viens d'avoir un appel pour la greffe. Démerde-toi. Viens à l'hôpital européen Georges Pompidou. Donc, et alors là, pareil, ma meilleure amie qui était en soirée avec ses potes, je l'appelle, je lui dis, j'ai un greffon. Elle a pris toutes les routes de Paris en sens interdit pour foncer à l'hôpital pour me rejoindre. Tous mes proches, les plus proches, se sont retrouvés à l'hôpital. Donc là, j'ai pu voir mon fils. Que le moment où on te prépare pour le bloc prend un petit peu de temps quand même. Hein. Il faut passer des examens, voir l'anesthésiste, faire les douches à la bétadine, etc. Donc ça prend un peu de temps. Donc en fait, t'as quand même un peu de temps pour voir tes proches. Et puis après, je suis partie au bloc.
Ça a dû être un moment hyper angoissant et hyper compliqué quand même à gérer.
En fait, je réalisais pas. En fait, j'ai pas eu le temps de réaliser parce que je passe d'une émission de télé où j'ai de la musique partout à l'hôpital. Et en fait, avec le recul, je me dis, j'ai tellement de chance que ce soit passé comme ça, parce que du coup, j'ai pas eu le temps d'angoisser, en fait, de réaliser vraiment. Juste au moment où les portes se sont fermées à l'entrée du bloc et que je vois ma famille me faire coucou, ouais, là, forcément, dès que la porte s'est fermée, j'ai pleuré, en fait, j'ai craqué. Parce que tu sais pas, en fait, tu sais pas si tu vas te réveiller. Voilà, je me rappelle d'une infirmière qui me tenait la main, qui me caressait les cheveux, qui me rassurait, qui continuait à me donner des nouvelles de mon fils. Pendant qu'on me préparait, on me disait, il est là, il va bien, t'inquiète pas, il est à côté et tout. Enfin, c'est beau.
Ton histoire, elle est incroyable parce que t'es quand même ultra forte pendant tout ce que tu m'as raconté depuis le début pour le moment. T'as jamais baissé les bras. C'est-à-dire que t'as toujours gardé en tête ton objectif d'aller mieux pour ton fils, parce qu'on voit quand même que c'est ta principale motivation. Et je pense qu'en réalité, ton rôle de maman, il t'a clairement... aider.
C'est vrai que j'ai toujours aimé la vie. Et j'ai toujours eu conscience qu'une vie, on en avait qu'une. Et t'as raison, en fait. Mon fils, c'est vraiment mon...
C'est ton moteur.
C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment... Et tu vois, c'est marrant que tu me dis ça, parce que hier, j'ai une fille qui m'a écrit, j'espère qu'elle n'écoutera pas l'épisode, mais... qui me dit... Parce que c'est vrai que je vais pas te mentir, depuis un an et demi, je galère un petit peu. J'ai fait un cancer l'été dernier.
Ouais, j'ai vu, j'ai su.
Là, j'ai des petits problèmes gynéco assez sérieux. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Je suis dans une spirale qui est pas simple. Et j'ai une fille qui m'a dit, mais t'as jamais eu envie de baisser les bras, même si t'as ton fils et tout. Et je lui ai répondu, en fait, je lui ai dit, mais alors, pas du tout. Et au contraire, encore moins maintenant, parce que j'ai de plus en plus conscience de la fragilité du temps, tout simplement, parce que je vieillis, parce que ça fait longtemps que je suis malade. Alors, je ne me vois pas mourir demain, mais je sais que j'entre aussi dans une période où il y a des complications et qui ne sont pas graves, mais ça plus ça plus ça. Alors, si, ça dépend ce qu'on appelle pas grave, mais c'est vrai que moi, du moment que je respire, pour moi, j'arrive à surmonter tout le reste et tant que mes poumons vont bien, ça va. Mais en fait, non, pas du tout. En fait, plus le temps passe, plus je redouble de force, alors que vraiment je galère et je me dis non, mais j'ai encore des choses à faire. Et comme je te dis, j'ai cette soif de vivre. Ce matin, j'ai passé une sale matinée et mon fils n'est pas chez moi en ce moment. Et en fait, il m'a appelé cet après-midi. On est resté un quart d'heure au téléphone et en fait, c'est comme s'il ne m'était rien arrivé ce matin, quoi. Mon fils, c'est vraiment mon.
Oh ouais, ça te fait une bouffée d'air et ça te fait oublier aussi tout le quotidien difficile.
C'est ça.
Et justement, après cette grève, donc, j'imagine que tu as été suivie parce que c'est un process qui reste long. Aujourd'hui, la mucoviscidose, elle est toujours en toi. Ça veut dire que tu restes toujours porteuse de la maladie?
J'ai toujours la maladie. J'ai juste les poumons de quelqu'un d'autre qui fait que je respire bien.
Ouais.
Après, c'est vrai que la greffe m'a vraiment changé la vie. Alors, il faut savoir qu'une greffe, ça ne guérit pas. C'est important de le préciser. C'est-à-dire qu'on échange un problème contre un autre.
Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et du coup, c'est aussi pour ça que là, t'as plusieurs problèmes de santé qui s'accumulent.
Bon, c'est pour ça, et parce que, pour être très honnête avec toi, les médicaments anti-rejet sont très toxiques.
Ouais, donc forcément, à long terme, et
voilà, ça entraîne des complications. Mais à côté de ça, alors même si t'es pas médecin, quand j'ai été greffée, il me restait 13% de souffle. À l'heure d'aujourd'hui, j'en ai 103. Donc, je fais du sport. Et pour parler de la période où j'ai été greffée, mon petit garçon a retrouvé une maman avec du souffle, qui pouvait jouer avec lui sans s'essouffler, qui pouvait courir après lui, qui pouvait lui faire des activités sans demander à quelqu'un d'autre.
Ouais, ça a dû être incroyable aussi pour lui. Il avait quel âge quand ta greffe a eu lieu?
Il avait 4 ans.
Ouais, il était petit en réalité, il comprenait pas tout.
Non, il comprenait pas tout. Après, on lui a beaucoup expliqué. Même les infirmières l'ont prise en charge. Il est venu me voir à l'hôpital quand je respirais toute seule, donc sans oxygène. En fait, c'est le schéma qu'on avait voulu lui mettre dans la tête. En fait, on lui expliquait qu'on allait remplacer les poumons de maman pour qu'elle ait plus de tuyaux pour respirer. Donc, même si au départ j'en avais encore, même si j'allais bien, on m'avait dit que je le verrais que quand j'aurais vraiment plus les tuyaux. Donc, quand il est venu, il a vu une maman toute rose, sans tuyaux. Et puis, c'est la première chose qu'il m'a dit, quoi. Il m'a dit, maman, t'as plus de tuyaux.
Ouais.
Donc voilà. Mais puis, voilà. Enfin, c'est vrai que la greffe, c'est un petit peu compliqué. Mais au-delà de ça, je suis encore en vie après 16 ans.
Tu le vois grandir.
Je le vois grandir. On fait beaucoup de choses, donc forcément c'est un peu la galère de temps en temps, mais je suis hyper reconnaissante.
Oui, c'est clair. Aujourd'hui, tu disais que tu avais des problèmes de santé et que c'était un peu compliqué. Tu remontes la pente tout doucement ou là t'es dans une période justement de down?
Donc j'ai fait ce cancer l'été dernier, qui s'est plutôt bien soigné, et encore une fois je suis très reconnaissante parce que j'ai pas vécu ce que beaucoup de femmes ont.
C'était lié à la thyroïde, hein, c'est ça?
Ouais, la thyroïde. Voilà, moi mon physique n'a pas été atteint, donc ma dignité n'a pas été touchée. J'ai juste été opérée, j'ai eu quelques traitements après, mais j'ai pas perdu mes cheveux et voilà. Et dans le combat du cancer du sein, je sais ce que ça peut signifier pour des femmes, parce que j'en accompagne dans le cadre de mon métier, de mes missions. Et là-dessus, je suis vraiment reconnaissante. Ça s'est bien soigné. Après, aujourd'hui, comme tu dis, là, j'ai d'autres petits problèmes qui sont sérieux, mais qui sont pas graves. Alors, quand je dis sérieux, oui, il y a des petits passages au bloc. Il y a beaucoup de visites à l'hôpital. C'est pas drôle, mais j'arrive à tenir sur mes deux jambes. Je suis en forme. J'arrive à avancer dans mes projets et c'est le plus important pour moi, j'ai envie de te dire.
En tout cas, t'es ultra positive et je pense que c'est ça aussi qui t'aide au quotidien. Est-ce que t'aimerais rajouter quelque chose avant qu'on termine cet épisode?
À part que j'ai envie de transmettre au monde entier qu'on n'a qu'une vie, que c'est important de la vivre à fond, quelle que soit notre histoire, même si c'est pas simple au quotidien. Pour moi, la vie mérite vraiment d'être vécue et que, derrière les nuages, il y a toujours le soleil qui apparaît à des moments. Et quand c'est le cas, il faut vivre à fond et profiter.
Ben, merci beaucoup. Et en tout cas, je te souhaite d'aller mieux, que tu puisses enfin profiter pleinement, même si je sais que tu le fais quand même à côté de tout ça.
Ouais, j'essaye.
Merci beaucoup, Sabrina.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je pense que vous avez découvert l'histoire de Sabrina. Peut-être que vous l'aviez déjà entendue, peut-être que vous la connaissiez déjà, puisqu'elle parle beaucoup de son histoire. En tout cas, moi, c'est une histoire que j'ai trouvée incroyable et je trouvais qu'elle méritait d'être mise en lumière. Vous avez pu l'entendre, Sabrina est une femme solaire, courageuse, qui continue de se battre aujourd'hui. Même si elle a été greffée, elle vit parfois des moments difficiles comme elle a pu nous le dire. Elle doit encore se battre face à quelques soucis de santé, alors on lui souhaite beaucoup 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 de courage. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, de me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir et ça donnera beaucoup de visibilité aux histoires et aux podcasts. Et pour ne rien louper, vous pouvez suivre le compte Instagram maman.travail. Allez, je vous laisse et je vous dis à dans 14 dodo.